avantageusement. Une appropriation individuelle est nécessaire. Donc tout repose sur ce droit, sur ce fait que Dieu a donné la terre aux hommes. Les hommes peuvent en user librement. Le tout, c'est de ne pas gêner son voisin. C'est là, toujours la limite. Mais le droit de propriété est quelque chose d'absolument naturel. Ça relève sur le droit premier primitif. Il nous dit ceci encore. Si la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent à tous, du moins chaque homme détient un droit de propriété sur sa propre personne et en elle un autre que lui n'a de droit. Donc, ce droit de propriété en définitive, c'est le droit que nous avons sur notre corps, sur notre propre personne, sur notre individualité. Par suite, son travail personnel et l'œuvre de ses mains lui appartiennent en propre. Droit de propriété, droit au travail, tout cela se fonde sur le fait que notre univers est donné par Dieu à l'homme. Ici, donc, intervient le travail de chacun, qui est à lui comme sa propre personne. C'est l'expression qu'il prend. Le travail, le droit de propriété sur l'œuvre que nous faisons, c'est le prolongement de notre propre personne. Donc le travail de chacun qui est à lui comme sa propre personne, comme l'ouvrage de ses mains. Ainsi, l'homme porte en lui-même la justification principale de la propriété, parce qu'il est son propre maître et le propriétaire de sa personne et de ce qu'elle fait et du travail qu'il accomplit. Là, c'est cité de lui directement, je relis pour que vous voyez bien, parce que c'est intéressant, puisque le droit de propriété est considéré directement lié à cette liberté et à cette égalité de tous les hommes. L'homme porte en lui-même la justification principale de la propriété, parce qu'il est son propre maître et le propriétaire de sa personne, de ce qu'elle fait et du travail qu'elle accomplit. Dans le premier stade de l'état de nature, l'homme n'a pas de limite à sa propriété. Dans le second stade de nature, alors c'est le fait qu'il y a en face de lui quelqu'un d'autre, et alors à ce moment-là, les limites vont commencer à cause de l'autre. Mais il y a comme un rêve, si vous voulez, un premier état de nature qui ne précise pas exactement. C'est comme s'il parlait encore du paradis terrestre. C'est très curieux. Il y a comme une espèce de réminiscence du paradis terrestre. Comme si dans un premier état de nature, l'homme était absolument libre. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Dans un second état, alors il y a des contrats qui s'établissent. Et parce qu'il y a des contrats qui s'établissent, il y a des limites à la liberté. Il faut respecter les contrats. Donc il faut respecter l'autre. L'autre, c'est celui qui vient limiter votre liberté. On ne dit pas que l'autre, c'est l'enfer, mais l'autre, c'est celui qui vient limiter votre liberté. Parce que si l'autre n'existait pas, vous auriez la liberté absolue. Vous voyez, c'est très important de saisir ce point de vue-là, et que l'homme, dans sa propre personne, il a ce prolongement dans son droit de propriété. Il nous dit ceci encore. Trois conditions font défaut à l'état de nature. Donc l'état de nature, ça pourrait nous paraître l'état le plus parfait. Eh bien non. Il faut passer de l'état de nature à un état politique. Et c'est l'état politique qui est l'état le plus parfait. Pourquoi ? Trois conditions font défaut à l'état de nature. Premièrement, une loi établie, fixée, connue, admise par tous comme critère du bien et du mal. Ça, c'est très curieux. Donc, après avoir exalté la liberté comme un absolu, il ne met pas la liberté au sens comme si c'était vraiment l'absolu tout court, puisque l'état de nature implique trois limites. Et la première, c'est qu'il n'y a pas de loi établie, fixée, connue, admise par tous comme critère du bien et du mal. le critère du bien et du mal va venir par le point de vue politique. L'individu livré à lui-même est libre, pas de critère du bien et du mal. Le critère du bien et du mal apparaît alors au niveau politique, c'est-à-dire au niveau des contrats, au niveau des différentes alliances qu'on a pu faire. Deuxième limite qu'il pose à l'état de nature, un juge compétent, impartial, pour appliquer la loi. Dans l'état de nature, il n'y a pas de juge. Troisième limite de l'état de nature, une force coercitive pour mettre dûment à exécution la sentence du juge. Nous avons donc là toute la structure de l'aspect politique au-delà de l'individu. La politique ne va pas être, si vous voulez, au service de l'individu. C'est très curieux comme affirmation. Ça va être, au niveau proprement, visible des biens. L'aspect politique va apporter quelque chose de nouveau à l'état de nature. L'état de nature reste imparfait parce qu'il n'y a pas de loi. Alors, vous voyez, c'est un peu une contradiction avec l'absolu de la liberté de mettre comme la loi. Alors, une loi juste, évidemment, une loi en vue du bien commun, une loi qui doit... Mais la loi apparaît comme justement quelque chose qui va perfectionner l'homme. L'homme est perfectionné par la loi. S'il y a la loi, il faut un juge, compétent et impartial pour l'appliquer. Et s'il y a un juge, il faut qu'il y ait une force coercitive. Eh bien, je crois qu'en voyant cela, on voit toute la structure de la communauté politique. La communauté politique va s'établir sur les individus libres, mais viendra permettre à cette liberté des individus de rechercher quelque chose qui va aller plus loin que cette liberté. La liberté de l'homme, celle d'agir comme il l'entend, se fonde sur la possession de la raison qui doit l'instruire de la loi d'après laquelle il doit régler sa conduite. Alors, nouvelle définition de la liberté, vous voyez, ce n'est plus la même définition de la liberté. Il y a un second moment de la liberté qui est justement le fait que cette liberté, donc je reprends, la liberté de l'homme, celle d'agir comme il l'entend, se fonde sur la possession de la raison. Ça, c'est la première définition. Qui doit l'instruire de la loi d'après laquelle il doit régler sa conduite. Donc, il règle sa conduite non pas en fonction de sa liberté, mais en fonction de la loi. Et en fonction de la loi, on va donc avoir un état plus parfait que cet état de nature. Et ce sera proprement le point de vue politique. Et alors, vous voyez bien qu'à partir de là, nous comprenons les différents pouvoirs politiques. Le pouvoir législatif, le pouvoir des juges et le pouvoir coercitif. Parce que justement, il s'agit, je ne dis pas d'éduquer la liberté, mais de l'endiguer. Je crois que c'est plus juste, c'est de l'endiguer. Il ne faut pas l'éduquer. La liberté reste fondamentalement une source inaliénable. Mais dès qu'on vit en communauté, dès qu'on n'est plus seul, puisqu'il faut respecter la liberté de l'autre et que l'autre a la même liberté que moi, alors comment va-t-on pouvoir vivre au-delà de toutes les luttes? Il faut donc des lois. La loi endigue la liberté et permet, autant qu'on peut le voir, une certaine coopération. Mais ça, il n'en parle pas beaucoup. Il parle surtout de ses limites. Vous voyez tout de suite, hein, je vais m'arrêter dans quelques instants et puis nous allons reprendre après, vous voyez tout de suite que nous sommes là en présence vraiment d'un système philosophique qui veut réduire la nature humaine à la liberté. Je crois qu'on peut le dire, ça. La liberté représente la nature de l'individu. Mais cependant, il reste quelque chose de la nature. Et ce quelque chose de la nature se retrouve dans cet état qui n'est plus l'état primitif, qui est l'état communautaire et politique. Et cet état politique va représenter un état plus parfait que l'individu, parce que la loi apparaît. Mais il n'est absolument pas question de finalité dans sa philosophie. On ne peut pas définir l'homme comme recherchant le bonheur, non. On ne peut pas définir l'homme comme recherchant l'amour d'amitié, non. C'est la liberté qui définit l'individu. Et comme il y a plusieurs individus, qu'on n'est pas unique, et que le monde est donné à tous, il ne faut pas qu'on lutte trop les uns contre les autres, parce que ce ne serait pas bon pour la liberté. Il faut donc endiguer cette liberté. Il faut la lier par des lois. D'où la nécessité absolue de l'État. L'origine de l'État provient de là. Alors, je m'arrête quelques minutes et puis je reprendrai l'autre versant très rapidement de Marx, parce que c'est important de faire un parallélisme entre ces deux contraires. Et je crois que ce serait très intéressant de faire un parallélisme entre ces deux contraires pour voir que tous les deux impliquent un idéalisme. Et donc tous les deux sont limités au plan philosophique par ce point de vue, si vous voulez, d'un idéalisme. Bien que l'un et l'autre, aussi bien John Locke que Marx, tous les deux veulent être réalistes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et que tous les deux, d'une certaine manière, reviennent à Aristote. C'est aussi très curieux. Serait celle de la douleur morale. Alors je vais y répondre tout de suite avant de continuer. Première question. Quel parallélisme qu'on pourrait faire avec Rousseau, Jean-Jacques? Vous voyez, l'état de nature. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Rousseau, l'état de nature représente quelque chose de parfait, puisqu'on est corrompu par la société. Tandis qu'au contraire, pour Locke, l'état de nature représente un état d'attente vers quelque chose qui va permettre quelque chose de plus parfait. Et c'est là où il y a un illogisme. Parce que si l'état de nature, c'est un jaillissement de liberté, et que la liberté, pour lui, c'est la chose essentielle, il faut à tout prix sauvegarder la liberté. Ça, je crois qu'on peut dire que c'est l'intuition dominante de John Locke, c'est de, à tout prix, sans préciser exactement ce que c'est que la liberté, je vais y revenir dans un instant. Mais la liberté qui semble ce jaillissement semble être la chose essentielle. Or, justement, il considère qu'il faut l'établissement de lois. Il faut l'établissement d'un juge, il faut l'établissement d'un pouvoir coercitif, parce que justement, cette liberté absolue, quand elle se lie avec une autre liberté, ne peut plus être absolue. Et donc, il faut nécessairement un juge au-dessus des deux. Et c'est là où il y a quand même un illogisme. Cet illogisme qu'on retrouve chez lui, je crois, provient du fait de l'individu et de la nature. Qui dit loi implique nécessairement la nature. Parce que implique, la loi est universelle. Or, l'individu comme individu, il est singulier. Et donc, l'individu ne peut pas fonder la loi. C'est la nature qui fonde la loi. Parce que la nature, elle, a justement ce fait d'être universelle. Or, de fait, il n'a jamais vu, au point de vue philosophique, la différence entre le point de vue de la nature et l'individu. Et je crois que ça, c'est une lacune très grande. Nous y reviendrons, parce que je ne peux pas faire de philosophie politique sans justement essayer de comprendre ces points de vue individu et nature. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, Locke, parce qu'on est à une frontière. On pourrait dire que le libéralisme philosophique, à partir de Locke, il a pris des formes diverses. Ce serait intéressant de regarder ces diverses formes du libéralisme philosophique. Ce serait très intéressant de voir cela. Il a pris des formes diverses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette définition de la liberté, c'est la définition la plus commune. Quand vous définissez, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la liberté, il dit faire tout ce que je désire. Et la seule limite de la liberté, c'est que j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'ennuie beaucoup parce que lui aussi désire faire tout ce qu'il désire. Alors si en même temps nous voulons faire exactement la même chose et que nous avons un espace limité, alors on va s'attraper l'un l'autre. Donc il faut un arbitre. Alors, c'est très vrai que cette définition qu'il donne de la liberté, c'est la définition la plus commune. Ce n'est pas une définition philosophique. Pourquoi ? Parce que justement, la liberté, c'est une abstraction. Qu'est-ce qui existe ? Ce sont des actes libres. Ça n'a l'air de rien, cette petite distinction, mais c'est capital. Nous posons des actes libres. La liberté en soi n'existe que dans la statue de la liberté. Alors là, il y a une statue de la liberté. Mais la liberté en soi, ça n'existe que dans mon esprit. La liberté ne peut se définir que par des actes libres. Et quand je suis au niveau des actes libres, je vois qu'il y a des modalités différentes d'actes libres. Il y a des actes libres au niveau moral. Il y a des actes libres dans l'ordre de la fabrication, dans l'ordre artistique. Il y a des actes libres au niveau politique. Alors, la liberté comme telle, parce qu'il y a un moment donné où la liberté est apparue comme ça. C'est chez Descartes, hein, je crois, le premier qui a parlé de la liberté en elle-même. C'est pour ça qu'on dira que Descartes, c'est le premier philosophe de la liberté. En réalité, le premier philosophe de la liberté prise comme absolue, c'est John Locke, beaucoup plus que Descartes. C'est beaucoup plus lui. Mais justement, en comprenant que cette liberté est à la racine de toute la vie humaine, Descartes, lui, conçoit la liberté comme ce qu'il y a de plus divin en nous. Il considère que c'est par la liberté que je suis le plus proche de Dieu. Et il considère que ma liberté et la liberté de Dieu, c'est la même, univoquement. Ce qui n'est pas vrai, parce que mes actes libres sont différents des actes libres de Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir de Descartes, on a pris la liberté d'une façon abstraite, et jusqu'à Sartre, et jusque dans notre monde d'aujourd'hui, nous parlons toujours de la liberté. Et on fait une philosophie de la liberté. Non. Comprenons que la liberté ne peut se comprendre qu'à partir d'actes libres. Un acte, il est orienté vers une fin, si c'est un acte humain. Il est orienté vers un bien. Et je définirai alors l'acte libre comme un acte qui me permet d'atteindre ma fin de telle ou telle manière. Il y a des actes nécessaires qui s'imposent à moi qui ne sont pas libres, des actes instinctifs, hein, ce que le vieux philosophe appelait le fricare barbam, hein, ça dit très bien la chose, hein, ou l'éthique si vous voulez. Hein. Alors ce ne sont pas des actes libres. Hein. Quand je mets ma main sur ma tête spontanément, pour bien comprendre que je puisse penser, parce que quelquefois la pensée s'évade, alors je la ramène à son lieu, et alors à ce moment-là, ce sont des gestes instinctifs, ce n'est pas des gestes libres. La liberté naît à partir du fait que j'ai un amour vis-à-vis d'un bien, et que je vois que pour atteindre ce bien, il y a divers moyens. Et je suis libre de choisir ces moyens. Tandis qu'il y a un amour qui s'impose à moi, au-delà de la liberté. Comment se fait-il qu'à l'égard de certaines personnes, j'ai un senti, quelque chose qui m'attire ? C'est mon bien. Est-ce que je suis libre ? Non. Je suis libre d'accepter cet amour ou de refuser cet amour. Ah oui, c'est pas toujours commode, Mais je suis libre d'accepter cet amour ou de ne pas accepter cet amour. Mais cet amour, il naît spontanément en moi. La liberté se définit en fonction de l'amour, en fonction de l'inspiration. Un artiste qui a une inspiration, il est libre de réaliser l'œuvre qu'il veut ou de ne pas la réaliser. La liberté de l'artiste n'est pas du tout la même que la liberté de l'ami. La liberté morale est autre chose que la liberté de la fabrication. Et la liberté politique est encore autre chose. Nous essaierons de comprendre qu'est-ce que c'est que la liberté politique. C'est encore autre chose. Donc, voyez, vouloir regarder la liberté d'une façon abstraite, c'est par le fait même ne plus comprendre du tout ce que c'est. Et quand vous parlez de liberté, on a toujours envie de dire, en tant que philosophe, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté? Si vous définissez la liberté par la spontanéité, vous ne définissez pas par la liberté, parce qu'il y a des Jésus spontanéité qui sont entièrement téléguidés. Ils ne sont pas libres du tout. Ils sont spontanés. Le vivant, et c'est un être qui a des spontanéités. L'animal a une spontanéité extraordinaire. Regardez un petit chat ou un petit chien. C'est merveilleux la spontanéité de ces animaux. Regardez les dauphins. C'est merveilleux comme spontanéité. Ils ne sont pas libres. Je ne peux pas définir la liberté par la spontanéité. Que la liberté implique une spontanéité, ah oui, mais un acte spontané n'est pas la même chose qu'un acte libre. Et donc, définir la liberté par un jaillissement, non, ce n'est pas définir la liberté, c'est une condition de la liberté. Pour qu'il y ait liberté, il faut ce jaillissement, ça c'est bien évident, c'est une condition, mais ce n'est pas ça la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'un acte libre? Il faut revenir à l'acte libre pour comprendre ce que c'est que la liberté. Parce qu'on ne progresse qu'en revenant à quelque chose de concret. L'abstrait n'est pas objet d'expérience. Je n'ai jamais expérimenté la liberté. Comme telle, si je prends la liberté de cette manière abstraite. J'ai conscience d'acte libre. Et je ne peux pas séparer la liberté d'acte libre. La liberté n'est pas quelque chose de substantiel. La liberté n'est pas quelque chose de premier. C'est toujours quelque chose qui présuppose une source. Elle n'est pas source. Elle jaillit d'une source. Elle n'est pas source. Ceci pour vous montrer que de fait, quand Locke définit le point de vue de la liberté, il veut la montrer comme à la racine même du jugement. Il veut la montrer comme quelque chose de fondamental et il ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'au fond, pratiquement, il ne la définit pas, il la définit uniquement selon les conditions d'exercice de la liberté. Pour pouvoir exercer ma liberté, il faut qu'en face de moi, j'ai un espace libre. C'est bien évident. Il faut qu'en face de moi, j'ai un espace libre. Il faut qu'en face de moi, j'ai quelqu'un auquel je ne fais pas de tort. Ça, c'est les conditions d'exercice, ce n'est pas la liberté. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que la liberté, il faut regarder ce que c'est que l'acte libre. Nous y reviendrons, parce qu'au point de vue politique, philosophie politique, vous comprenez que c'est quand même très important de saisir ce que c'est qu'un acte libre. Et ce n'est pas si commode d'analyser vraiment ce que c'est que l'acte libre. À partir de là, je pourrais parler de la liberté, mais quand je voudrais définir la liberté, je définirai toujours la liberté à partir d'un acte libre. Vous voyez, c'est très simple, et c'est quand même très important au point de vue hygiène de la pensée, de distinguer les termes abstraits et les termes concrets. Blanc, blancheur. Vous avez l'expérience du blanc, mais vous n'avez pas l'expérience de la blancheur, sauf quand il s'agit d'affiches. Alors le persil, la blancheur, c'est merveilleux. Vous avez tout de suite compris la blancheur. Alors quand vous voyez ça, mais au fond, vous n'avez pas l'expérience de la blancheur. Vous avez l'expérience d'un mur blanc, d'un visage blanc. Mais vous n'avez pas l'expérience de la blancheur. Pour savoir ce que c'est que la blancheur, il faut venir au mur blanc. Comment définissez-vous la blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. Et ça ne vous dit rien du tout. Ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Ce par quoi un acte est libre. C'est ça la liberté. D'un terme abstrait. Oui, je crois que ça c'est très important. L'idéalisme ne fait pas cette distinction. Parce que l'idéalisme reste dans des notions et dans des idées. J'ai l'idée de la liberté. Qu'est-ce que votre idée de la liberté? Moi, je voudrais bien savoir. J'ai l'idée de la liberté. Ah oui? Qu'est-ce que c'est que cette idée de la liberté? Oui? L'idéalisme ne fait plus cette distinction. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on est dans une confusion complète. On ne sait plus du tout si on est en face de choses qu'on expérimente, si l'expérience est au point de départ de ma vie philosophique, ce que je crois. C'est ça l'intérêt de la philosophie, c'est de réfléchir sur ses expériences. Et en réfléchissant sur ses expériences, d'être de plus en plus capable de rencontrer l'autre. C'est ça l'important. Un être vivant, c'est un être qui est capable de rencontrer un autre être et d'être capable de pouvoir vivre avec lui, de pouvoir le saisir et le connaître, donc de connaître le point de vue humain. Tandis qu'une philosophie qui commence par l'idée, elle commence par l'abstrait. Alors on commence par la liberté. Descartes, c'est ça. Si je reviens à une philosophie réaliste, je reviens toujours à l'expérience. Et c'est ça qui m'intéresse dans Locke, vous voyez. C'est que Locke a eu quand même un point de départ extrêmement intéressant. De dire que toute philosophie doit supprimer tous les a priori, je crois. Un vrai philosophe, c'est celui qui supprime tous les a priori, qui les sait du moins, parce que c'est très difficile de les supprimer tous. Je crois qu'on ne peut pas les supprimer tous. Il y a toujours quelque chose qui revient de notre première éducation. Mais ce qui revient de notre première éducation, nous devons être suffisamment lucides pour comprendre le conditionnement dans lequel on est. Et comprendre le conditionnement dans lequel on est n'est pas un a priori. C'est tout simplement le réalisme de notre vie. C'est que nous sommes des êtres qui sommes nés, qui avons eu une première éducation, une famille, et que nous avons travaillé dans tel ou tel sens. Nous avons opté de travailler dans tel ou tel sens. Alors à ce moment-là, on sait très bien comment progressivement notre intelligence a progressé, comment notre cœur a été capable d'aimer. Et on distingue le point de vue de ce vers quoi nous tendons et le conditionnement. Alors, ce qui est intéressant, et ça je crois que c'est très important quand il s'agit de Locke, c'est que Locke veut reprendre tout à la source. Et voulant reprendre tout à la source, il essaie de tout reprendre par l'expérience. Où nous retrouvons l'idéalisme de Locke, c'est pas par ce désir de venir aux réalités. L'idéalisme de Locke, c'est tout simplement d'essayer de comprendre comment l'intelligence, par des relations, par des connexions, va façonner ses jugements, va façonner sa manière de regarder les choses. Alors là, on voit ce que représente cette perception de l'intelligence au-delà de l'expérience. L'intelligence saisit des relations. Mais il n'y a plus de principe. Il n'y a absolument plus aucun principe. Il n'y a plus que des relations. Un tissu de relations commandé par mes expériences. C'est une mise en ordre des matériaux que je possède. Et vous voyez que derrière, nous trouvons déjà dans Locke un certain positivisme. Il y a un idéalisme positiviste, parce que le positivisme est un idéalisme. Un idéalisme très curieux, mais c'est un idéalisme. Parce qu'au fond, c'est uniquement regarder l'intelligence qui se façonne un réseau de lois, un réseau de relations, et qui met ça dans un certain ordre, et de juger tout à partir de là. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a un idéalisme qui demeure dans Locke malgré ses intentions. Et ceci explique alors pourquoi la loi devient si importante, parce que cet idéalisme demeure. Je voudrais maintenant, très rapidement avec vous, vous connaissez Marx suffisamment, donc on peut aller assez rapidement, tandis que je crois que Locke, vous le connaissiez moins, et c'est pour ça que j'ai regardé Locke, et puis que c'est quand même très important de voir la naissance de cette philosophie idéaliste. Je vous renvoie à ce petit livre qui vient de paraître, qui est un de mes amis, et c'est pour ça que je l'aime en particulier, Marx et Aristote, de Jacques de Montléon. C'est un livre très simple, mais d'une simplicité bonne. Je crois qu'on peut tous lire ce livre et comprendre, alors par le fait même, ce qu'il y a au plan philosophique d'intéressant et d'erroné dans Marx. C'est fait d'une façon très objective et intelligente. C'est un livre posthume, puisque ce sont des conférences que M. de Montléon avait données. Et ces conférences, on les a réunies, puisque M. de Montléon était un homme qui, de son vivant, ne voulait absolument rien éditer, parce qu'il cherchait tout le temps. Et qu'il avait l'impression que quand on écrivait quelque chose, ça n'allait pas. Et qu'il fallait écrire toujours des choses absolument parfaites. Alors, si on ne veut écrire que des choses parfaites, on n'écrit jamais, c'est sûr. Et M. de Montléon était un peu de cette race de gens qui avaient le sens très fort qu'une œuvre, un livre, doit être une œuvre. Et donc, il faut produire une œuvre parfaite. Alors, il a laissé des quantités de choses dont son fils et ses amis essaient d'éditer progressivement. Et alors, ça, c'est un des sujets qu'il aimait beaucoup. C'était d'essayer de comprendre la pensée de Marx, et comme il était très aristotélicien, il faisait toujours le parallélisme. Et c'est juste de faire le parallélisme entre Marx et Aristote, comme on pourrait faire le parallélisme entre John Locke et Aristote. Puisque c'est ça qui m'intéresse chez les deux, c'est que tous les deux veulent revenir à un réalisme. En revenant à un réalisme plus poussé que John Locke, je suis plus libéral que lui, parce que je ne mets pas de limite à la tolérance, en la plaçant bien là où elle doit être, parce que c'est l'homme qu'on respecte, en premier lieu, et donc tout homme qu'on respecte, dans la mesure même où il est un homme, c'est-à-dire qu'il recherche une finalité qui est juste. Et en étant réaliste, on va plus loin que Marx, parce que Marx aussi est retombé dans l'idéalisme. Donc, on va plus loin que Marx et on rentre plus dans son intention. C'est ça que je voudrais montrer avec vous. Alors, je vais me servir, parce que j'aime bien cette petite étude de M. de Montléon, je vais me servir tout simplement de quelques passages qu'il donne. Et puis nous réfléchirons sur ce point, vous verrez tout de suite, c'est très facile à voir l'idéalisme de Marx. C'est peut-être plus difficile de le voir celui de Locke, mais l'idéalisme de Marx me semble très facile à comprendre. Premièrement, Marx veut revenir à une position réaliste. Autrement dit, Marx critique la philosophie hegélienne. Je vous lis ce passage, page 21. Nous pouvons d'ailleurs rapprocher cet effort de l'idéalisme hegélien, critiqué par Marx, d'autres choses dont Marx et Hegel ont fait usage, à savoir en Dieu, le mystère de la très sainte Trinité, tel que la révélation chrétienne l'a explicité. La pensée du Père se développe, s'exprime dans un verbe parfait, et il se produit cette chose extraordinaire, que ce verbe est un fils. Nous pourrons exprimer tout ce que nous voudrons, développer nos pensées avec toutes les richesses possibles, cela ne donnera pas une réalité subsistante. C'est bien évident que nos idées ne peuvent pas être nos fils, ce serait trop commode. On en aurait des quantités. Alors, il ne serait pas très dérangeant parce qu'ils seraient nos idées. Et donc, ils seraient toujours conformes à nos idées. Tandis que nos enfants ne sont pas toujours conformes à nos idées, parce que, justement, ils ont une autonomie subsistante. Cette petite remarque de Montléon est très amusante, c'est pour ça que je vous la lis, parce qu'il montre bien que, de fait, aussi bien Hegel que Marx se sont réalisés dans un milieu chrétien. Exactement comme Locke. Je vous ai dit, il ne refuse pas le point de vue de l'idée de Dieu, il ne refuse pas la révélation. Et nous avons quelque chose d'analogue entre Locke et Hegel, c'est que tous les deux acceptent la révélation au point de départ. Et au terme, il n'y a plus que les idées. C'est la raison, l'entendement, qui progressivement dans son cheminement arrive à posséder toute vérité. Et la révélation n'est considérée que comme un moment d'infirmité, de pauvreté de l'intelligence humaine. Autrement dit, la foi, c'est bon pour ceux qui ne sont pas des intellectuels. La foi, c'est bon pour ceux qui n'ont pas beaucoup réfléchi. Alors ils ont la foi. Ça leur sert de canne d'aveugle. Et la foi n'est pas plus que cela. C'est une canne d'aveugle pour permettre d'avancer dans un domaine sur lequel on n'a pas réfléchi. Mais si on réfléchit, si on commence à être intelligent et développer son intelligence, on pourra par le fait même supprimer toute vision proprement de la révélation. C'est curieux de retrouver par le sommet quelque chose de commun. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intention de Marx va directement contre le projet hegélien. C'est pour ça qu'il considère que la philosophie hegélienne est une philosophie bourgeoise. Toute philosophie idéaliste pour Marx est une philosophie bourgeoise, c'est-à-dire idéaliste, puisque le bourgeois, c'est celui qui ne tient pas compte des injustices que subit l'ouvrier. Ça paraît très curieux comme partage des eaux, mais ce partage des eaux est très net. Et Marx veut, lui, au contraire, s'occuper de l'ouvrier. Il veut s'occuper de l'ouvrier dans son travail. Il veut réhabiliter par la praxis le travailleur. Et ce sera cela qu'il regardera en premier lieu. Ce n'est pas du tout la liberté. Ce n'est plus du tout la liberté. Mais il y a quelque chose de semblable entre la réaction contre l'idéalisme de Marx et de Locke, c'est que l'un et l'autre s'opposent à la métaphysique, c'est bien net, c'est un rêve bourgeois, sale bourgeois qui fait de la métaphysique, hein. C'est vraiment la chose la pire. Et tous les deux identifient l'homme avec l'idée ou le travail. Il y a un télescopage de l'homme comme tel. Il y a un télescopage de la personne humaine. Et je crois qu'on peut dire que des deux côtés, le point de vue de l'individu qui s'identifie avec la liberté ou qui s'identifie avec la praxis, avec le travail, c'est la même chose d'une certaine manière. Parce qu'on ne voit plus la finalité propre de l'homme. Et je crois ça très important à saisir, parce que c'est là où on voit au plan philosophique, je ne parle pas ici au point de vue économique, mais au plan philosophique, c'est là où on voit l'erreur magistrale de Marx. Marx considère que la philosophie idéaliste est une philosophie qui, justement, sépare le point de vue spéculatif du point de vue pratique. Il ne peut pas accepter cette distinction. Il faut pour lui que la philosophie soit essentiellement pratique. Les philosophes avant lui ont contemplé le monde. Il faut que la philosophie transforme le monde. Et donc il faut une philosophie réaliste et non pas une philosophie qui conduit à la contemplation. Une philosophie qui conduit à la contemplation, non, ça ne sert à rien. Il faut une philosophie qui serve à quelque chose, une philosophie réaliste qui transforme le monde. Et cette philosophie va donc prendre où l'homme transforme le monde. L'homme transforme le monde par son travail. C'est donc ce point de vue-là qu'il va regarder en premier lieu. Et le travail est lié à l'économie. Et donc le fait principal de toute sa philosophie, par où il veut être réaliste, c'est de regarder les faits économiques. Et les faits économiques, pour lui, commandent le point de vue politique, et donc tout se ramène aux faits économiques. Je crois que c'est cela qui commande cette démarche première et l'intention profonde de Marx. C'est une intention légitime, c'est évident, que de regarder les faits économiques, c'est très important, et de voir que les faits économiques commandent d'une certaine manière le point de vue politique, c'est aussi très important. Où on voit la limite, c'est justement de limiter l'homme à la praxis. C'est de limiter l'homme à la transformation qu'il fait de l'univers par son travail. Et de ne plus voir que la praxis dans une perspective qui est proprement celle de Marx. Donc, vous voyez, première réaction contre l'idéalisme. À ce point de vue-là, même chose que Locke. Deuxièmement, où l'idéalisme va se réintroduire. L'idéalisme va se réintroduire, je crois, de deux façons dans la dialectique marxiste. D'une part, la recherche des catégories économiques. C'est là où va jouer une certaine abstraction. Je vous lis encore ce petit passage de M. de Montléon, page 23. Le mot « abstraction » est un des mots qui revient le plus souvent sous la plume de Marx. Je vous ai dit tout à l'heure, blanc, blancheur, libre, liberté, et que blancheur, c'est une abstraction, c'est un mot abstrait. Liberté est un mot abstrait. Alors, c'est toujours en mettant le primat de l'abstraction sur le concret que l'idéalisme se réintroduit. Et nous faisons très vite, ça. Nous faisons très vite parce que l'abstraction, ça provient de nous. On aime toujours ce qui vient de nous. Une mère aime toujours son enfant. Son petit enfant est toujours le plus beau de tous. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Eh bien, ce qui vient de nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'idéalisme, il provient de nous. Le réalisme provient de la réalité. Alors, on aime beaucoup mieux ce qui provient de nous. Alors, vous voyez, ici, et c'est pour ça que je vous lis ce passage, parce que je crois qu'il est intéressant, qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en lumière. Le mot « abstraction » est un des mots qui revient le plus souvent sous la plume de Marx. On voit bien que Marx ne le prend pas toujours dans le même sens. Cela est normal. Il serait intéressant d'ailleurs de faire une grosse thèse de 1500 pages sur l'usage du mot abstraction chez Marx, avis aux amateurs. C'est pas fait, donc faites-le, parce que c'est intéressant. Et je crois que ça éclairait énormément sur la position philosophique de Marx, sur l'idéalisme, parce que c'est par là qu'il s'est introduit. Marx, donc, en tout cas, c'est le procédé contraire à l'idéalisme pour Marx. Et en réalité, les deux se conjoignent là. L'idéalisme procède en construisant la réalité à partir des catégories qui descendent du ciel de la pensée. Pour Marx, au contraire, c'est-à-dire des idées. Pour Marx, au contraire, la réalité nous est donnée. Retour, vous voyez, au réel, ce qu'il veut. Elle présente certains aspects et elle réalise certaines notions que nous appelons les catégories, qui sont les catégories générales de la vie économique et sociale.